7h16, Pierre-Yves, on a abordé souvent le thème de l'impôt minimal pour les multinationales, l'impôt mondial minimum. Et là, le G7 envoie un premier signal dans cette direction, un premier pas là, vers le 15 %.
Bon, au sommet du G7, on dit, regardez, on veut que le pays hôte d'une multinationale qui profite de certains avantages fiscaux ailleurs corrige la situation. Par exemple, si le taux effectif d'impôt est finalement 12, mais vous allez appliquer un 15 puis capter la différence. Bon. En plus de ça, on dit que vous allez pouvoir commencer à taxer les multinationales qui sont pas physiquement dans votre pays. Comme ici, on a Facebook, Apple qui, dans le fond, si Apple nous vend du cloud à nos entreprises, mais que le serveur est aux États-Unis, ben dans le fond, on dit là, tu vas pouvoir taxer là, directement ces compagnies-là d'une façon X. Bon, ça, c'est le concept. C'est beau sur papier, mais tu me connais, j'ai des questions. La première question, c'est la suivante. Est-ce que ça vient encourager ou détruire le leurre fiscal? Et un bon exemple de leurre fiscal...
Qu'est-ce que tu veux dire?
Quand je te leurre, ça veut dire que je t'attire. Comme ouais. Par exemple, Ubisoft, on paye des salaires d'Ubisoft. On paye plus de 30 % des salaires de la créativité chez Ubisoft. Jusque-là, c'est une subvention qu'on fait. Mais si Ubisoft doit être taxé à 15 % sur ses revenus imposables, nous, on a payé une partie des salaires. Donc, c'est pas de l'impôt. On n'est pas un paradis fiscal. On a leurré, si tu veux, une entreprise ici, en payant des salaires. Mais ça n'empêche pas l'entreprise de payer ses employeurs puis de payer son 15 % sur les bénéfices qui sera fait. Mais ici, il n'y a peut-être pas de bénéfices et il y a subvention. Alors, quand on dit forcer l'entreprise à payer un taux effectif de 15 %, est-ce qu'on inclut des leurres fiscaux ou on dit non, juste sur l'impôt? Ah, parfait. On va commencer d'un multinational à dire « On va payer notre 15 % aux États-Unis, pas de problème. Au Canada, ben, pas de problème. » Mais, si vous voulez nous attirer chez vous, par exemple, maintenant, ça va coûter plus cher. Alors, c'est ça, je me demande, est-ce qu'on va contourner?
Mais attends, je vais te poser une question. Là. Mettons qu'ils s'entendent là, sur le 15 % puis c'est le 15 % pour l'ensemble des multinationales.
Sur le revenu imposable.
Ouais. Quand arrivent ces programmes pour attirer des entreprises à qui on accorde un paquet d'avantages, comment tu vas jongler avec le 15 % puis ces incitatifs là, pour amener Electrolux à Memphis puis amener Ubisoft à Montréal?
Ben, tu vas juste l'imposer sur le 15 % sur le bénéfice imposable puis tu vas faire semblant que les programmes n'existent pas ou qu'ils ne sont pas dans le calcul puis dans l'entente mondiale. Et donc, il y a encore cette concurrence fiscale qui est différente parce que ça affecte les
revenus.
Parce
que la concurrence va continuer. C'est pas vrai que ça va disparaître.
Mais si tu fais rembourses des salaires, ça veut dire que tu diminues les charges. Donc, oui. Tu baisses les dépenses. Donc, il y a une portion qui va être imposée. Mais ça dépend de la hauteur des charges. Je te donne d'autres exemples. 15 % sur tous les types de revenus, c'est-à-dire gain en capital, revenus de dividendes d'entreprise, revenus de placement ou juste les revenus d'exploitation qui vont être contenus là-dedans. Ou est-ce qu'il va y avoir des contrôles en place? Donc, on a une volonté collective, mais il faut se dire qu'une PME au Québec ou une entreprise au Canada paie présentement, quand elle est au Québec, entre 13 % puis là, 26,5, là, je compte pas les autres types de revenus, mais te dire que ça varie dépendant si tu es une petite entreprise ou non, si tu as des avantages ou non. Donc, on va le faire, on va appliquer ça, on va mettre en place un premier pas, mais le leurre fiscal existe encore.
OK. Là, tu me parles d'enjeux fiscaux pour les familles. J'ai hâte de t'entendre. Donne-moi un exemple de ça.
Il y a deux enjeux dont le gouvernement, sur lesquels le gouvernement fait la sourde oreille. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement sait, les députés savent, mais ils ne savent pas quoi faire. Le premier, c'est le montant pour une personne à charge admissible. Je t'en ai déjà parlé, c'est de dire, il y a au Canada un illogisme. C'est-à-dire, quand vous payez une pension alimentaire pour vos enfants, vous n'avez plus droit au montant pour personne à charge. Mais vous pouvez vous occuper de vos enfants à 50 % pareil. Donc, je te donne un exemple facile. Deux personnes qui gagnent 40 000 ne se versent pas de pension alimentaire, prennent chacun un des deux enfants comme personne à charge admissible. Les deux ont le crédit. Ah! Il y en a une qui gagne 45 000, l'autre 40 000. Il y a une petite pension alimentaire qui se paye. Oup! Le payeur n'a plus droit au montant pour personne à charge. Et donc, le fisc... Ou le
attends, dès que tu payes une pension, tu n'as plus le droit au montant?
Pour personne à charge, le crédit. Non, parce qu'à l'époque que ça a été fait, il disait... Si tu payes une pension, c'est parce que tu n'occupes pas de tes enfants. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus ça.
C'est une fiscalité avec une morale?
Oui, parce qu'ils ont changé la logique. Parce que maintenant, tu peux ne plus t'occuper de tes enfants à 50 % du temps, mais comme tu as un plus gros salaire que l'autre personne, tu as une pension alimentaire pour compenser. Mais ça, t'as quand même tes enfants à charge. Mais là, le gouvernement garde des centaines de dollars par contribuable dans ses poches. Net, tu comprends?
Mm-hmm.
Ajoute à ça, après ça, Daniel Germain en a parlé cette semaine, c'est la fameuse taxe famille. Pourquoi j'en parle présentement? C'est parce que là, il y a des gens qui vont se mettre en couple le 1er juillet. Ils vont déménager ensemble.
C'est quoi ça, une taxe famille?
C'est que, disons que t'as deux enfants, tu te matches avec quelqu'un qui a pas d'enfant ou un enfant, vous habitez ensemble maintenant dans une maison ou dans un appartement, toutes vos allocations famille puis les allocations canadiennes pour enfants, qui étaient à l'époque OK, mais maintenant, c'est rendu des extrêmement gros montants, ben ils vont être réduits peut-être à zéro. Tu peux perdre des milliers de dollars en communauté familiale net d'impôts.
Mais
parce
pourquoi
que...
je perdrais des milliers de dollars? Parce que je me remets en couple avec quelqu'un?
C'est parce que ton nouveau conjoint ou ta nouvelle conjointe compte dans le calcul. Et là, on calcule les allocations famille sur la base du revenu familial de l'unité familiale. Mais ça ne veut pas dire que le nouveau conjoint ou la nouvelle conjointe paye sa juste part des dépenses de tes enfants, puis que de vivre ensemble dans une maison, tu as nécessairement une économie d'échelle. Puis ça ne veut pas dire que parce que tu emménages avec quelqu'un, tu es riche avec l'économie d'échelle, parce que tu peux vivre à Westmount, Valleyfield ou Gaspé, puis c'est les mêmes montants en fonction des mêmes revenus. Alors ça, là, c'est un casse-tête labyrinthe épouvantable. Puis le gouvernement là-dessus, là, en matière de politique familiale, on a beau dire qu'on est progressiste au niveau des autorités fiscales. C'est tout croche, alors bon déménagement.
Bon, là, j'ai une question pour toi, là, très simple. Oui. Ton livre là, sur l'amour et l'argent, c'est pour quand?
Hey, j'en ai écrit ça, mais là, j'attends que le gouvernement finisse sa politique familiale, tu comprends?
ça va être un autre best-seller.
Oui, mais je travaille fort là-dessus, okay. Paul, ça s'en vient.
Merci, salut. 7h23.